Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. C'est l'heure de Force 7, le magazine d'information proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, l'agglomération Manosquine a remis une centaine de téléphones portables aux acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes. Reportage dans ce magazine. Les thermes de Digne-les-Bains ouvriront en douceur le 24 mai. La directrice de l'établissement, Véronique Lemaire, évoque cette reprise progressive au micro d'Odile Frison. Dans le Haut-Var, un jeune couple propose une cuisine bistronomique au château de Trigance. Véronique Armand a rencontré Hortense et Théo. Les 5 et 6 juin, rendez-vous au jardin de Salagon à Man, un magnifique programme où un certain Pierre Rabhi parlera d'agroécologie avec aussi beaucoup d'autres animations. L'annonce de ce beau week-end avec Fabien Gervais-Briand dans un instant. Pierre Chalory expose à Manosque. En 1998, il peint les Twin Towers de Manhattan dans un décor chaotique, prémonitoire. 20 ans après, penchons-nous sur un 11 septembre qui a fait basculer le monde. Rencontre avec le peintre à la fin de ce magazine. Un portable peut sauver une vie.
C'est le premier effet de l'opération « Orangeons le monde » que Lise Raoult avait présenté en nos studios. Voilà 6 mois, la vice-présidente de l'agglomération Manosquine lançait une collecte de téléphones portables usagés pour lutter contre les violences conjugales. Dans les communes de la DLVA, une centaine d'appareils ont été remis, puis la société Orange a fourni des puces et cartes prépayées pour les équiper. Ces portables sont à la disposition d'associations de secours aux femmes victimes de violences conjugales et principalement le CIDFF 04, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui coordonne l'opération. L'aide aux victimes et l'accès aux droits étant également partenaires actifs du dispositif. En cas de violence conjugale, un téléphone est un lien qui peut s'avérer salvateur avec l'extérieur. Le 17, bien sûr, mais aussi la famille, les amis et amis IES, quand le conjoint violent veut isoler sa victime sous emprise. Opération pilote, ce dispositif peut être transposé en d'autres territoires et les appareils collectés sur Durance-Luberon-Verdon agglomération peuvent aussi aller vers les réseaux du CIDFF régional. La directrice du CIDFF 04 et la vice-présidente de la DLVA évoquent cette action et leur partenariat. Lise Raoult, vous êtes vice-présidente de la DLVA. Quel est ce dispositif que vous mettez en place pour les femmes ?
Je suis vice-présidente de la DLVA, prévention de la délinquance. Et c'est au cours d'une réunion avec M. Maglouf Rabhit, avec Laetitia Serrano-Midao, qui est directrice du CDFF, qu'ils avaient récolté des puces oranges. Donc moi, je me suis dit, tiens, les puces, c'est formidable. Si je posais la question aux 25 maires qui partagent le territoire de la DLVA, s'ils étaient d'accord pour les collecter dans leur mairie propre. Ça a été un oui unanime, tout le monde m'a suivi, c'est pour ça qu'aujourd'hui on en a récolté plus de centaines. Je suis très fière de ce projet, ça va permettre aux femmes de victimes de violences de pouvoir se dépanner avec ce téléphone, comme disait si bien Laetitia, ou un secours, ou s'il n'y en a plus du tout, parce que malheureusement les auteurs de violences, la première chose qu'ils détruisent, c'est le moyen de communication. Donc je pense que ça va servir et je suis très très fière des associations qui m'entourent, CIDFF, le CDAD, Point Justice et la MAV, qui sont vraiment des femmes vraiment formidables.
Alors c'est une première que fait la DLVA dans ce sens, ça peut servir d'exemple à d'autres collectivités ?
Ah tout à fait, j'espère bien. C'est vrai qu'on est les premiers à s'être lancés là-dedans, mais j'espère beaucoup, je compte vraiment sur tous les autres maires de venir nous contacter à la DLVA et on leur expliquera comment on a fait, mais je suis sûre que tout le monde va participer.
Avec en plus une fonction de réseau entre les associations, vous les avez citées, et les organismes qui permettent de servir les mêmes personnes qui ont un besoin très particulier à un moment très précis.
Tout à fait.
Laetitia Serena-Bidalo, vous êtes la directrice du CIDFF. Comment fonctionne ce dispositif ?
Alors le CIDFF, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. C'est une association nationale. Il y a au moins un CIDFF par département. Et ce qui réunit les CIDFF, c'est l'information juridique. On n'est pas un CIDFF si on ne fait pas de l'information juridique. Au fur et à mesure qu'on a informé les femmes sur leurs droits, on s'est rendu compte qu'elles étaient souvent victimes de violences et c'est pour ça qu'on a créé l'accompagnement des victimes, le secteur d'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales. On s'est rendu compte également que pour les sortir de leur situation de violence, il fallait favoriser et promouvoir leur autonomie personnelle mais aussi professionnelle. Donc on a créé le secteur de l'emploi et de l'insertion. Et on s'est dit, ce qui manque, c'est de la prévention, de la formation. Et du coup, on a créé le secteur de l'égalité et on s'est dit, on va aller sensibiliser les parents sur l'éducation non sexiste, on va aller sensibiliser les petits-enfants à l'école sur la question des stéréotypes, on va aller sensibiliser les jeunes sur les relations amoureuses respectueuses et on va travailler avec les professionnels sur le repérage et l'orientation des victimes. Et comme ça, on aura tout un panel de personnes sensibilisées parce qu'on sait qu'en fait, le terreau de la violence conjugale aujourd'hui, c'est les stéréotypes.
Avec ce dispositif, vous avez récolté des téléphones qui vont être mis à disposition de femmes qui souvent sont privées justement de moyens de communication.
Oui, effectivement, une femme dans une situation de violence qui n'est pas séparée de l'auteur, très rapidement, il va soit lui confisquer son téléphone, soit le cacher, soit s'en servir. Il va exercer de la menace avec ce téléphone. Et du coup, ce dispositif qui est mis en place par la DLVA va permettre aux victimes d'avoir un téléphone de secours si c'est nécessaire, qu'elle pourra cacher dans un tiroir, dans un sac à main. Mais ça pourra aussi, pour une victime qui sort de sa situation de violence, qui est dans un hébergement d'urgence, avoir un téléphone alors qu'elle n'en aurait pas habituellement.
Comment est-ce que les personnes peuvent vous contacter pour bénéficier de ces téléphones ?
Elles peuvent contacter le CIDFF au 04 92 36 08 48, mais elles peuvent aussi s'en procurer avec l'AMAV, l'Association de médiation d'aide aux victimes. Si les victimes ne sont pas accompagnées par le CIDFF, elles peuvent s'en procurer par une autre association. Et elles peuvent aussi, si c'est nécessaire, contacter le CDAD, Conseil départemental d'accès aux droits, pour avoir un téléphone.
Vous avez également soumis l'idée, tout simplement, de pouvoir faire bénéficier de ce dispositif d'autres CIDFF dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Aujourd'hui, on accompagne à peu près 300 victimes par an. On a 100 téléphones. On se dit que pas forcément toutes les victimes auront besoin d'un téléphone et que c'est dommage d'avoir un si beau dispositif qui dort dans un tiroir. Donc la question que j'ai posée à la vice-présidente de la DLVA, c'est de savoir si on pouvait utiliser ces téléphones pour des victimes de violences qui ne seraient pas des victimes de violences du territoire de la DLVA, qui seraient peut-être des victimes de violences à Marseille. Voilà. Donc c'est comment on pourrait mettre ces téléphones à disposition d'autres associations d'aide, notamment des CIDFF, parce que c'est mon réseau, parce que je le maîtrise.
Les thermes de Digne-les-Bains ouvriront le 24 mai.
Le bout du tunnel, même si la capacité d'accueil est réduite. Alors que leurs homologues de Gréoux-les-Bains ont pu ouvrir le 19 mai, les thermes de Digne se donnent un peu plus de temps et pourront à nouveau accueillir les curistes qui avaient dû reporter leur séjour en raison des mesures gouvernementales. Le personnel se mobilise pour que tout soit bien en place pour la réouverture du centre dignois, mais la jauge de fréquentation n'est autorisée pour l'instant qu'à 50% pour parvenir à 100% à partir du 9 juin. De plus, la vaccination complète est imposée aux curistes. C'est ce qu'explique Véronique Lemaire, une directrice soulagée, au micro d'Odile Frison.
Véronique Lemaire, vous êtes directrice des thermes à Digne-les-Bains. La réouverture enfin au public ce 24 mai.
En effet, enfin la réouverture et enfin l'accès à nos soins pour nos curistes qui sont très demandeurs pour l'instant.
Comment ça va se passer puisque c'est pas tout à fait la même chose qu'au 9 juin?
Nous avons donc reçu hier en fin de journée, aux alentours de 20h, le nouveau référentiel sanitaire. Et donc nous savons que nous avons une jauge donc pour l'accueil de nos curistes. Cette jauge est à 50% par rapport à la capacité de notre RP. Et donc là, pour l'ouverture du 24 juin, on est finalement avec une fréquentation qui commence en douceur, mais qui est un peu plus correcte quand même que ce qu'on a pu avoir l'année dernière après la réouverture le 29 juin.
Ce sont des curistes qui avaient déjà une prescription avant le confinement, ceux qui vont venir là?
Alors là, on est sur des reports de cures de curistes qui avaient réservé depuis, puisque l'ouverture était envisagée au départ au 1er mars. Donc c'est des reports de cures pour les curistes du 1er mars et de toutes les dates qui suivent jusqu'au 24 mai. C'est aussi des gens qui avaient réservé pour le 24 mai, en fait, avec évidemment une part d'annulation malgré tout pour les personnes qui ne sont toujours pas aussi confiantes aujourd'hui vu la situation sanitaire. Donc on va faire une ouverture avec une centaine de personnes qui vont arriver soit le 24, soit le 25. On est sur un jour férié le 24.
Donc au niveau du personnel, est-ce que c'est l'ensemble de votre personnel qui reprend ses fonctions?
Non, ce n'est pas l'ensemble du personnel qui reprend ses fonctions. Comme la jauge est imposée et comme la fréquentation est aussi moindre que d'habitude, on va avoir une arrivée de notre personnel qui va se faire en douceur avec une augmentation progressive de l'arrivée de notre personnel sur les semaines qui viennent.
Et est-ce que les rendez-vous de bien-être hors curiste sont ouverts aussi à tout public ou pas?
Non, aujourd'hui nous n'avons pas l'autorisation d'ouvrir nos soins de bien-être. Toutes les activités aqualudiques et de bien-être sont reportées à une date ultérieure. On parle du 9 juin, mais avec une jauge de 35%. Donc nous allons voir exactement quand on va remettre en route les services de bien-être.
Aujourd'hui, vous êtes confiante pour retrouver le plein potentiel des thermes?
Je suis confiante dans notre activité et dans les soins que nous proposons à nos curistes. Je sais que nos curistes qu'on a eus en ligne très régulièrement pendant toute cette période de fermeture sont très contents de pouvoir revenir en cure et de pouvoir bénéficier de leurs soins. Donc j'espère que cette ouverture sera une ouverture qui nous amènera jusqu'à la fin de la saison et que nous ne serons plus obligés de fermer par fermeture administrative comme ça a été le cas à deux reprises l'année dernière.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous semblent importantes à rappeler aux auditeurs?
Je pense qu'il est important de dire qu'aujourd'hui, toutes les mesures vont être prises pour essayer d'accueillir les personnes avec un maximum de sécurité. On nous demande aujourd'hui d'informer les personnes que la vaccination donc complète va permettre aux personnes de ne pas devoir passer un test PCR avant de rencontrer leur médecin thermal et de pouvoir bénéficier des soins. Il y aura des autotests qui seront demandés pendant toute la durée de la cure pour essayer un maximum que tout se passe dans les meilleures conditions.
C'est des personnes vaccinées simplement qui vont venir ou comment ça se passe?
Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc par rapport au référentiel sanitaire qui nous a été transmis hier en fin de journée, donc toutes les personnes qui sont vaccinées et qui ont un schéma vaccinal complet ne doivent pas présenter un test PCR au médecin avant de commencer la cure. Toutes les personnes qui n'ont pas ce schéma vaccinal devront donc passer un test PCR avant la visite chez le médecin thermal et ensuite devront faire des autotests pendant leur séjour en cure, c'est-à-dire qu'on leur demande un autotest bi-hebdomadaire. Alors, il est conseillé aux personnes vaccinées d'en faire aussi malgré tout, puisqu'on sait que la vaccination ne nous protège pas complètement d'être porteurs de la COVID, mais en tous les cas, les personnes qui ne sont pas vaccinées auront ces contraintes supplémentaires. Oui. Parce que c'est important, là aujourd'hui, on a dû informer nos curistes qui commencent lundi de cette mesure qui s'est prise. Hein. On a reçu les informations hier soir à passer 20 heures, donc c'est vrai que les gens sont sur la route, les gens ont déjà pris leur rendez-vous et il faut prendre un rendez-vous supplémentaire parce que certains ont déjà une première injection mais ils n'ont pas le schéma complet. Donc aujourd'hui, le schéma complet est indispensable.
Ceux qui ont déjà la première injection ne peuvent pas se la faire faire ailleurs que dans leur lieu de domicile?
Oui, mais en général, il faut attendre les délais entre les deux injections. Et ensuite, une fois que la deuxième injection est faite, sur les vaccins Pfizer et Moderna, il y a un délai encore de 14 jours derrière pour qu'on parle d'un schéma de vaccination complet. Sur l'AstraZeneca, c'est 21 jours après la dernière injection. Et sur le Janssen, c'est aussi 21 jours après la première injection. Donc en fait, c'est vraiment un processus complet qui est nécessaire pour dire qu'on a la vaccination complète. Et sans ces éléments-là, eh bien, on est obligé quand même de demander des tests. Alors nous ne sommes pas habilités à faire cette demande, hein, puisque nous sommes des paramédicaux à l'établissement thermal, mais ce sont les médecins qui doivent demander ces tests et ces schémas vaccinaux aux patients.
une cuisine bistronomique au château de Trigans.
Village du Haut-Var, Trigans est situé à l'intersection des rives droite et gauche du Verdon, non loin de Castellane. Son château fut détruit à la Révolution et ses archives brûlées. Aussi, la date de sa construction reste indéterminée entre les 9e et 11e siècles. Le château de Trigans a été restauré à partir de 1960 par M. et Mme Hartmann qui entreprirent de le transformer en hôtel-restaurant. En 1971, l'opération fut poursuivie par la famille Thomas qui fait actuellement la passation à un jeune couple fraîchement diplômé. Hortense et Théo sont passionnés d'hôtellerie-restauration et ont déjà fait leurs preuves la saison dernière. Ils continuent à faire évoluer un concept très tendance. Ils répondent aux questions de Véronique Herman.
Théo, quel genre d'études avez-vous faites ?
On est issu de bac généraux. Hortense a passé un bac ES et moi un bac S. Suite à quoi, nous sommes rentrés à l'école hôtelière de Nice, Paul Augier, où nous avons entamé notre cycle de BTS, hôtellerie-restauration. Suite à ça, Hortense a débuté une année de mention complémentaire bar, en alternance au Carlton de Cannes. Et j'ai commencé à travailler en tant que seconde cuisine dans un restaurant bistronomique à Villefranche-sur-Mer.
Comment en êtes-vous venu à reprendre l'hôtel-restaurant du château ?
En été, il y a 2 ans, on est venu passer une semaine de vacances à Trigans, donc le village d'enfance de Théo. Puis on est monté manger au château. On a rencontré Guillaume, on a été amené à parler avec lui, donc du château, du fait qu'il cherchait un repreneur, un acheteur. De par ses quelques difficultés, il nous a parlé d'une éventuelle location-gérance s'il trouvait pas d'acheteur. Une ni deux, ça a commencé à nous titiller, donc en rentrant, on y a beaucoup pensé. Et puis on est revenu vers Guillaume en lui disant que ça nous intéressait énormément. Donc tout simplement, ça s'est fait comme ça. Après, ça a mûri 1 an, et puis 1 an après, on était au château pour notre première saison.
Vous avez démarré en pleine période de confinement. Est-ce que ça vous a porté préjudice ?
Alors oui et non. Non, dans la mesure où on a eu une fréquentation comme tous les commerçants des gorges du Verdon, de façon générale, et de l'arrière-pays. 140% de fréquentation en moyenne dans le secteur. Oui, dans la mesure où on a retardé l'ouverture de presque 2 mois. Mais de manière générale, on a fait une très très belle saison avec beaucoup de clients et nous sommes parvenus amplement à satisfaire la demande.
Quelles prestations vous offrez au restaurant du château ?
Quand on a repris l'année dernière, Guillaume avait mis en place un bar à vin avec des assiettes de partage et une suggestion du jour en plat. On a souhaité revenir sur une proposition plus classique de restaurant traditionnel avec des entrées, des plats et des desserts. On propose une cuisine bistronomique, inventive, créative, raffinée à la fois aussi. Théo, il met vraiment du cœur pour sortir des assiettes très belles de par le visuel. Le dressage compte énormément pour nous, même le support, les assiettes. Et du fait maison, des produits locaux au maximum. Donc on s'amuse vraiment à proposer ce style de cuisine qui devient de plus en plus tendance et apprécié.
Quel genre de plat proposez-vous ?
Alors, on est parti sur des assiettes où les clients vont à la fois pouvoir retrouver un élément qui va les rassurer, qu'ils vont connaître. Ça peut être une pièce de viande, un légume. Ils vont choisir ce plat et à côté de ça, Théo prend beaucoup de plaisir à justement twister un peu et à amener une originalité à cette pièce qui peut être plutôt classique. Et c'est par ça, en fait, qu'on offre à nos clients une créativité dans l'assiette, à leur faire découvrir. Et donc, les assiettes deviennent ludiques. On peut proposer, par exemple, un carré d'agneau, mais complètement revisité, ou une pièces de viande rouge revisitées également de par les accompagnements, la cuisson, les assaisonnements, les condiments. Voilà, plein d'éléments qui vont être originaux, travaillés et ludiques pour le client.
Au niveau de l'hôtel, comment fonctionnez-vous ?
Actuellement, on fonctionne en room service, service en chambre pour les clients de l'hôtel. À partir du 19, on va avoir la possibilité de rouvrir les terrasses aux clients extérieurs et aux clients de l'hôtel, le midi et le soir.
Les chambres étaient de style médiéval, vous les avez gardées telles quelles ?
On propose 8 chambres sur les 10 disponibles, une décoration médiéval chic avec des nouveautés notamment mises en place cette année concernant la literie, une gamme de produits d'accueil de qualité, des produits corporels naturels. Petit à petit, on imprègne les lieux de notre touche personnelle, que ce soit au niveau de l'accueil du client, au niveau de l'extérieur de l'établissement, avec la mise en place d'un coin plus lounge au niveau de la terrasse panoramique.
Vous avez installé un billard aussi ?
Oui, c'est ça, dans l'une des salles de la tour principale du château. Également une salle de jeu pour les enfants. On essaye de satisfaire au mieux la demande des clients, travaillant notamment dans notre boutique avec des produits locaux de Trigans qu'on met en avant. Dans l'une des tours de la terrasse panoramique, on a mis en place un comptoir circulaire avec l'aide et l'expertise de Michel Giuliano, le ferronnier d'art de Trigance. Et aujourd'hui, dans cette tour, nous vous proposons de vous relaxer autour d'un verre entre amis avec une vue à 360 degrés. C'est vraiment une terrasse très agréable.
Hortense, il vous reste du personnel embauché, on peut peut-être en parler ?
Oui, c'est vrai que cette année, avec le Covid, on aurait pu penser qu'il y aurait plus de demandes que d'offres. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était le contraire. Donc, on est à une semaine de l'ouverture des terrasses et de notre restaurant d'hôtel à la recherche de personnel de salle et de cuisine, notamment un chef de rang et un réceptionniste. Donc c'est vrai qu'on ne pensait pas avoir autant de difficultés à recruter cette année par rapport aux autres années.
Un numéro de téléphone ?
Nous appeler directement au 07 68 43 81 61 ou par mail châteaudetrigance@outlook.fr.
23 ans, c'est très jeune quand même pour prendre un château en gérance.
Oui, c'est à la fois un défi, c'est une histoire de motivation, de passion avant tout. C'est vrai qu'on a été bien formés, on passe notre temps à apprendre, à s'inspirer.
À vous remettre en question aussi.
Oui, des grandes remises en question parfois qui nous permettent d'avancer, d'aller toujours plus loin dans la satisfaction du client.
Et nous sommes vraiment heureux d'avoir repris le flambeau de la famille Thomas.
Le 5 et 6 juin, les jardins de Salagon vous donnent rendez-vous.
C'est le premier grand événement qui aura lieu au musée de Salagon, en Manne, dans les Alpes de Haute-Provence, depuis sa réouverture le 19 mai. L'opération nationale Les rendez-vous au jardin se déroulera le week-end des 5 et 6 juin autour du thème de l'agroécologie, avec notamment la présence de Pierre Rabhi. Table ronde, conférences, visites guidées, ateliers, spectacles, stands associatifs, le programme est riche et varié. Au micro de Mathieu Marc, le responsable de la programmation culturelle, Fabien Gervais-Briand.
Ce sera la première grande manifestation, et qui est en général la première grande manifestation du printemps, puisque c'est une manifestation nationale autour des jardins. Nous allons pouvoir présenter l'exposition « Jardin silencieux » de Marinette Cueco, notamment avec une déambulation chorégraphique de peinture sur corps, par l'artiste Corinne Léridon, et donc qui se tiendra à la fois dans l'exposition et qui emmènera le public dans les jardins.
Le samedi est aussi prévu une conférence.
Nous invitons Monsieur Pierre Rabhi pour une conférence sur l'agroécologie autour de la question: est-ce que c'est une éthique de vie au-delà de la technique de culture? Est-ce que vraiment c'est un mode de vie qu'on peut appliquer au quotidien? Donc il y aura Philippe Courbon, spécialiste de l'alimentation et grand ami de Pierre Rabhi, qui est parmi nous dans le Luberon, qui va venir lui donner la parole. À la suite de cette conférence, on aura une table ronde sur la question du changement climatique, la résilience autour du changement climatique ou de l'adaptation de l'agriculture. Il y aura Nathalie Charles du Parc naturel régional du Luberon, qui est chargée de mission agriculture. Nous aurons également des agriculteurs, Frédéric Mout. Nous aurons également Pierre Sauva et Pierre Alboui. Donc tous les trois travaillent autour de méthodes agroécologiques et agroforestières.
Il y a cette conférence de Pierre Rabhi sur l'agroécologie, il y a cette table ronde, il y a aussi tout un tas d'autres activités qui sont prévues pendant ces deux jours.
Effectivement, tout au long des deux journées, il va y avoir des activités, des ateliers qu'on va proposer nous en interne avec l'ensemble de l'équipe qui se met à l'heure de la médiation, des activités autour des jardins. Il y aura des visites guidées. Ce sera aussi l'occasion de découvrir une exposition photographique qui sera présentée dans le cadre du projet La Classe L'œuvre, qui est un projet porté par la DRAC PACA, que l'on a mené en partenariat avec la MFR Bleu Endurance, donc Maison Familiale Rurale. 14 élèves sont allés rencontrer 7 agriculteurs du territoire, entre Verdon et Luberon. On fait des entretiens ethnographiques. Et de ces entretiens ont débouché des prises de vue qui vont être présentées dans les jardins, une véritable exposition photographique dans les jardins.
Il y a aussi d'autres ateliers prévus, c'est samedi et dimanche.
Alors on aura des ateliers autour des collections du musée de Salagon, donc les collections ethnographiques. On aura aussi la fabrication de jardins emportés. Des entretiens sonores aussi sur des entretiens qui ont été menés il y a longtemps auprès d'agriculteurs du territoire. On aura Claire Pantel qui va réaliser un atelier de calligraphie au jardin. Également Mélina Furkeim qui va réaliser un atelier autour de la grammaire visuelle de la nature, donc toutes ces formes qu'on retrouve de manière générique, soit microscopique, soit macroscopique, dans la nature, au niveau du végétal. On aura aussi de la sylvothérapie avec l'association Harmonisation de Gaïa et un tas d'acteurs aussi à rencontrer sur site.
Il y a aussi des personnes qui viennent présenter des produits.
Alors effectivement, on va avoir de la vente de produits, la vente de plantes avec des pépiniéristes, de la vente de produits artisanaux aussi, des baumes, des huiles essentielles, de l'alimentaire. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer des associations, par exemple France Nature Environnement, la Ligue de Protection des Oiseaux, le groupe Chiroptère de Provence, la MAPI 04, où tous vont venir présenter le travail qu'ils font au quotidien de préservation et de valorisation de la biodiversité.
Ce dimanche 6 juin, il y aura aussi d'autres activités prévues.
Alors on aura notamment une démonstration de culture en lasagne, de permaculture, et aussi de l'éco-gastronomie. Donc c'est Bruno Doumézel de la Fédarlan qui va venir nous présenter tout cela, et qui sera aussi dans le marché des connaissances auprès des autres associations. On aura une performance corps et paysage avec la compagnie Pika Pika d'Astrid Giorgetta, accompagnée de Vincent Lucas au niveau musical. Donc là, c'est des élèves qui vont prendre possession des jardins d'un point de vue chorégraphique. Et on aura un spectacle, le spectacle L'Arbre Monde de Sylviane Simonet de la compagnie Les Grandes Pointures. Et aussi pour les tout petits, vraiment le jeune public de quelques mois au tout premier des âges de la vie, il y a l'association Mistigris qui va tenir un espace sensoriel et ludique dans les jardins.
Et tout ça avec le respect des normes sanitaires en vigueur, bien sûr. Est-ce qu'il y a une jauge à respecter ? Est-ce qu'il faut réserver ?
Alors, il ne faut rien réserver. Tous les espaces vont être ouverts. Que ce soit les temps de conférence, on sera sous chapiteau, mais ouvert. Avec les chaises à distance, il y aura de quoi se laver les mains. Et même au niveau des ateliers et des pratiques, toutes les distanciations seront respectées et les gens seront invités à circuler, à profiter de différents espaces, mais aussi aller à glaner sur le site d'autres rencontres pour permettre une rotation assez fluide en fait, dans l'espace.
L'art prémonitoire de Pierre Chalaury.
En 1998, Pierre Chalaury, peintre surréaliste marseillais, peint un tableau étrange. On y voit le World Trade Center de New York éventré et surplombant une ville dévastée. Prémonition glaçante avant que deux Boeing n'attaquent ce symbole de l'Amérique triomphante le 11 septembre 2001. L'artiste est visionnaire, ainsi il sent la mort d'une figure de la scène phocéenne avant que l'annonce de celle-ci ne soit publique. Et par-delà ce côté devin, le talent de Chalaury s'exprime en couleurs, formes et perspectives que son inspiration débridée lui fournit. Le peintre est aussi sculpteur, mélomane, électronicien de génie et merveilleux bidouilleur informatique pour prolonger en musique et 3D des toiles déjà très puissantes. Du 20 au 27 mai, Pierre Chalaury expose une vingtaine de tableaux à la galerie Manoskin Plastic Art et en plus, en résonance, des photos de Pierre Fischer prises au pied et en haut des Twin Towers viennent témoigner de ce qui s'est effondré dans l'horreur il y a 20 ans. Nous avons rencontré Pierre Chalaury avant son exposition à Manosque. Pierre Chalaury, vous exposez à la galerie Plastic Art à Manosque. On peut dire quelque part que vous êtes un visionnaire, j'y reviendrai, mais votre univers, c'est un univers surréaliste.
Tout à fait, c'est un mélange de surréalisme, de cubisme. Enfin, j'essaie d'organiser une réalité différente en mettant des perspectives dans tous les sens, en fait. Je garde une fraction de réalité tout en essayant d'aller beaucoup plus loin, avec un côté spiritualité qui est toujours intégré dans des fenêtres, dans mes tableaux. Il y a toujours un endroit où on peut s'échapper. Enfin, j'essaye quoi de faire ça à chaque fois.
Alors avec beaucoup de couleurs, bien sûr, des formes, évidemment, et des perspectives qui sont particulières.
Tout à fait. Mais ce que je disais, c'est d'essayer de recréer plusieurs perspectives en même temps dans le même tableau. C'est pas un seul dessin. Le dessin, j'essaie de vous emporter dans plusieurs univers différents en même temps. Quoi. C'est un peu le but. Comme celui-ci, le tableau. Enfin, vous pouvez pas le voir, mais bon, il y a des fenêtres différentes dans plusieurs petits univers séparés les uns des autres.
Il y a aussi des clins d'œil au passé, aux cultures du passé. Je pense à l'Égypte. Je pense aux Indiens d'Amérique, notamment.
Oui, tout ce qui est ancienne civilisation, je trouve toujours qu'il y a des tout ce qui est mystérieux, voilà, les Chichen Itza, les Aztèques, les pyramides, avec toujours le côté ésotérique et spiritualiste en fait. Alors, c'est des mystères, c'est des religions qui ont disparu, on ne sait pas exactement, c'est ça qui est intéressant. Je ne considère pas la réalité tangible comme une réalité finie pour moi, c'est ça. C'est, il y a quelque chose au-dessus ou parallèle, en fait, que j'essaie de transcrire. Voilà.
Alors justement, la magie de l'art, c'est de passer outre la réalité. Et vous avez fait rentrer, par exemple, le Titanic dans le port de New York, ce qu'il n'a jamais fait.
Oui, alors ça, c'était un clin d'œil. Donc ça s'est passé donc en 1998. J'avais fait une série de toiles sur New York, dans l'idée de les exposer à New York, mais l'exposition n'avait pas pu se faire. Ça s'est fait donc à Marseille. Et le premier, effectivement, c'était la Statue de la Liberté, avec le Titanic qui, je me disais, c'est dommage que ce bateau n'ait jamais pu arriver à New York, alors symboliquement, je vais le faire ressortir, arriver dans New York. Avec le recul des événements en 2001, c'était une sorte de symbole catastrophique, en fait. Et après, il y a eu la série donc des Twin Towers et d'autres tableaux qui sont encore plus, comment dire, on pourrait dire prémonitoires, puisqu'il y a les impacts étaient quasiment dessinés aux endroits où les avions suicides sont rentrés dans les tours. Ça s'est fait comme ça. Moi, je n'y voyais pas de, je voyais rien de négatif. Je voyais simplement, voilà, c'est quelque chose que j'ai fait inconsciemment, voilà, totalement inconsciemment.
Avec aussi en bas des tours un cataclysme avec des immeubles effondrés. Ce côté visionnaire, c'est chez vous, ça.
Voilà, je sais pas d'où ça vient, mais c'est ça se fait tout seul. Hein, c'est comme ça, c'est comme tout le monde. Je vois à ces capacités-là. Pour moi, je pense que tout le monde peut accéder à ça. Puis il suffit de débloquer les mécanismes, en fait. Après, ça se fait automatiquement, ou les rêves prémonitoires. Tout le monde fait des rêves prémonitoires. Hein. On s'en aperçoit après. Moi, j'ai fait des rêves. Bon. Ça s'est déroulé exactement comme dans mon rêve, mais je n'avais pas du tout conscience que c'était... Je ne peux pas me considérer comme voyant, parce que c'est inconscient, et surtout, je ne le sais pas sur le moment, je le sais après, voilà, alors c'est un peu bizarre. Et quand ça s'est passé, les événements de New York, c'était assez effrayant, en fait, pour tout le monde, et voilà, et pour moi en particulier, donc...
Vous vous souvenez de votre 11 septembre 2001 ?
Ah ben oui, pour s'en souvenir, tout le monde s'en souvient, mais là, c'était assez particulier. Donc les tableaux de la série de New York que j'avais peint entre juin et juillet 98 ont été exposés donc le 6 août 98 Villa Bagatelle, la mairie des 6 et 8e arrondissement à Marseille. Ensuite dans une autre galerie en septembre à Marseille toujours. Pendant 3 ans ils sont pas sortis de chez moi et on a fait une exposition du 5 au 11 septembre dans la galerie Provence Art, Culture et Création qui était située à la rue Mairie à l'époque, qui a disparu depuis malheureusement. Donc du 5 au 30 septembre 2001, et le tableau donc des Twin Towers avait été mis en vitrine. Je ne l'avais pas vendu en 98, donc il était mis en vitrine le jour du 11 septembre 2001, et des gens rentraient dans le... Alors comme il y a eu un décalage horaire entre 9h, ça s'est passé à 9h à New York, ça correspondait à 3h ici, et le galériste a ouvert sa galerie à 3h sans savoir ce qui s'était passé, et dans l'après-midi, les gens rentraient taper à la porte et lui disaient « Mais vous savez, les tours que vous avez en vitrine, elles n'existent plus, elles n'y sont plus ». Alors, le galériste, bon, comme le quartier plein, l'hypercentre de Marseille autour du Vieux-Port, il y a un peu des gens bizarres, on va dire. Et c'est des sortes de terroristes par procuration, on va dire. Et ils rentraient dans la galerie, tout contents d'annoncer ça au galeriste. Et le galeriste les a pris pour des fous. Il me disait, mais ils sont complètement barjots. Ils me disent que là, les tours n'existent plus. Et le soir, il est donc rentré chez lui. Quand il a vu les événements avec le décalage, puisqu'il a vu que le soir, qu'aux infos, il avait tellement été effrayé, en fait, que le lendemain, on devait faire le vernissage, je crois, 3 jours après, quelque chose comme ça. Et il a enlevé le tableau de la vitrine. En fait, il l'a mis dans une petite pièce de la galerie en haut. Alors il a fallu que j'insiste pour dire quand même il faut le montrer, mais ça l'avait tellement effrayé en fait que il disait oui mais par respect pour les Américains. Hein. Donc voilà, c'était la première fois qu'on a vu un tableau. Voilà. Et il est resté d'ailleurs, il était à travers la vitrine à jouer, la sorte de rideau à jouer. Donc il est resté toute la nuit du 11 septembre. Enfin, les gens ont été impressionnés. Hein. Donc là j'ai les preuves pour prouver ce que j'ai fait, puisque j'ai les photos, les vidéos, etc. Donc. Mais sur le moment, le choc était tellement impressionnant que bon, on n'a pas trop voulu faire de pub par rapport à ça, parce que c'était trop bouleversant, quoi, en fait. Alors, nous allons refaire une exposition. Là, c'est 20 ans après, puisqu'on est en 2021, que les événements ont lieu en 2001, voilà. Et en parallèle avec Pierre Fischer, en fait, qui est le maire du village de Montferrand où j'habite, qui avait été à New York en 97, et pour l'occasion, il avait fait des photos des Twin Towers et également une série de photos qu'il avait prises depuis les Twin Towers. Donc des photos qu'on ne pourra jamais plus refaire puisqu'elles n'existent plus sous cet angle-là, avec aussi des photos après les crashs, donc entre avant, pendant, après, avec le tableau qui fait le lien au milieu, quoi. Le tableau peint en 98, donc. Avec des immeubles, donc, des très belles photos qui sont, on voit par exemple certains immeubles que j'ai représentés dans mon tableau de 98, vus de haut, on les voit tels qu'on ne pourra plus jamais les voir, puisque les tours ont été détruites, et puis maintenant, il y en a une autre à la place. Mais je crois pas, elle n'est pas au même endroit, donc visuellement parlant, on ne pourra plus le... C'est des photos qui resteront, voilà, impossibles à refaire, quoi.
C'est la fin de ce magazine. Merci François, on se retrouve pour un nouveau Force 7 la semaine prochaine.
Oui, bien sûr Olivier, juste avant de nous quitter, un petit mot sur l'allègement des mesures de confinement qui est survenu cette semaine. C'est une excellente chose, évidemment, pour nos amis hôteliers, restaurateurs, et puis pour nous-mêmes, évidemment, pour pouvoir aller sur les terrasses, pouvoir enfin se confronter et rester ensemble dans des moments très conviviaux. Et on en a toujours vraiment besoin. Que dire aussi, les cinémas, les musées, peut-être les concerts bientôt, on l'espère. Enfin bref, la vie reprend, on peut sortir jusqu'à 21h, mais il faut quand même, et c'est là mon message, il faut rester prudent et respecter les gestes barrières. Ce serait stupide de retomber dans un reconfinement d'ici quelques semaines. Heureusement, la vie reprend, mais restons prudents. Merci Olivier.
Merci François. À la semaine prochaine. À bientôt.